chaque parent et chaque pensée. Je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours là. Oui, règne-moi par ton pouvoir. Et sur les mains, tu me donneras. Tu m'es Seigneur, de tout le monde. Dans ma vie, sois
Je vous propose qu'on prie pour Sylvain pour la prédication. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre Sylvain entre tes mains pour qu'il puisse parler en ton nom. Seigneur, pas en son nom à lui, mais en ton nom. Alors Seigneur, que nos cœurs soient aussi ouverts à ta parole. Ah, Seigneur, est-ce que tu veux nous dire ce matin? Et Seigneur, l'encouragement que tu veux nous apporter ce matin. Alors Seigneur, nous voulons te remettre Sylvain pour sa prédication. Sois avec lui, Seigneur, et bénis-nous chacun. Amen.
Il y a 10 jours, j'étais à Paris pour diverses rencontres, et puis en particulier pour être à la rencontre du réseau des scientifiques évangéliques. Il y avait aussi d'ailleurs Philippe Morel, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là, bien non, ce matin. Voilà. Et Eric, qui était autour de la question du hasard, hein, avec des scientifiques, des théologiens, les apports de la philosophie. Enfin, c'était extrêmement intéressant. Alors c'est un petit peu ça qui m'amène au thème d'aujourd'hui, mais je vais naturellement pas vous raconter ce qu'on a dit là-bas. Il y a eu d'ailleurs aussi une réflexion très intéressante d'Émile Nicole sur l'Ecclésiaste, qui est toute une réflexion de sagesse justement qui intègre cette question du hasard et voilà comment est-ce qu'on fait vis-à-vis de toutes ces incertitudes de la vie, hein, avec l'image de l'arbre qui tombe d'un côté ou de l'autre là que voilà. Mais ça sera pas ça le thème. J'aimerais simplement partager quelques réflexions au sujet de cette question, puisque ça implique dans nos vies, par rapport à la souveraineté de Dieu, au fait que Dieu connaît tout, et comment est-ce qu'on reconnaît des traces de Dieu dans nos vies. Puis j'aimerais commencer par une petite histoire, parce que je logeais là-bas chez mes amis laotiens, le pasteur Pafon et Malai Kram. C'est un pasteur laotien qui maintenant est pasteur d'une église baptiste, une assez grande église baptiste dans la région parisienne. Et puis Malai Kram, sa femme, elle était secrétaire médicale, maintenant elle est infirmière, elle travaille dans un hôpital public, dans un service de pneumologie. Et puis elle m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui lui est arrivée récemment. Elle était dans sa tournée, dans une chambre où il y avait une vieille dame, mourante, qui était entourée de quelques personnes de sa famille. Puis c'était une dame de confession orthodoxe. Puis cette dame souhaitait la présence d'un aumônier. Alors elle leur a donné les coordonnées, téléphoné, mais rien à faire, ils étaient sur répondeur. Alors elle s'est dit, mais c'est un hôpital public, c'est pas évident de savoir quoi faire, mais elle leur a dit, mais vous savez, moi je suis chrétienne, mon mari est pasteur, si vous voulez, je peux prier pour vous. Et puis elle a demandé à la dame si elle avait une demande particulière. Cette dame a partagé un peu les soucis qu'elle avait pour ses enfants. Et puis Malai Kram s'est mis à prier pour elle, à prier pour ses enfants, la remettre entre les mains du Seigneur. Puis très peu après, lui tenait encore la main, la dame a rendu son dernier soupir, paisiblement. Alors visiblement, cette dame attendait cette prière pour partir en paix, attendait qu'on remette ses enfants entre les mains du Seigneur. Alors oui, c'est un hasard de circonstances, hein. Malai Kram se trouvait là juste à ce moment-là. Ça aurait pu être n'importe quelle autre infirmière. L'aumônerie était aux abonnés absents. Et puis voilà, Dieu lui a permis. Pour elle, c'est un signe évident, la présence de Dieu qui lui a permis d'accompagner cette dame à ses derniers instants. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort, et peut-être que ça évoque d'autres choses pour vous, où on voit des traces de Dieu dans nos vies, à travers nos rencontres, à travers des choses toutes simples qui sont des hasards, mais des hasards significatifs. Alors j'aimerais prendre un peu la question du hasard, d'une part, sur les questions générales qu'on se pose, y compris dans la science, et puis ensuite sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire par rapport en fait, à un Dieu qui est souverain et qui connaît tout. Et puis à quoi on est nous appelés. Alors, vous savez que les questions du hasard ont préoccupé les gens, les scientifiques. Il y a une phrase très célèbre qui utilise ce terme, qui est la conclusion du livre de Jacques Monod, « Le hasard et la nécessité ». Je ne sais pas si certains ont lu ce livre. C'est un livre qui est sorti en 1970. Donc j'avais déjà fini mes études. C'est un livre qui est sorti après les découvertes fondamentales sur l'ADN et le code génétique. Et c'est un livre qui est brillamment écrit. C'est un essai sur la philosophie naturelle, la biologie moderne. Mais c'est très bien écrit, c'est aussi une sorte de confession de foi athée. Mais c'est vrai que ça fait presque frémir, tout en étant extrêmement intéressant, la conclusion du livre, directement dans le texte, je crois que je l'ai là. L'ancienne alliance est rompue, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Alors, Jacques Monod, quelque part du fait des mécanismes du hasard avec lesquels le vivant fonctionne, si vous voulez, il en tire la conclusion que l'homme est arrivé par hasard. Mais c'est vrai que c'est un peu effrayant hein, comme vision du monde. Et son livre a suscité toute une polémique, toute une discussion à l'université à Lausanne quand il est sorti. Parce que j'avais fini mes études, mais je naviguais dans les GBU, voilà. OK. Et pour lui, cette ancienne alliance qui est rompue, c'était la croyance fausse selon lui que le vivant et l'homme seraient le résultat d'un projet. Et puis son royaume à lui, c'est naturellement celui de la connaissance scientifique objective. Mais au contraire, je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères Bogdanov. Ouais, qui c'est qui... qui c'est qui a déjà vu ces deux espèces d'extraterrestres? Voilà, ils passent souvent à la télé, ok? Ces deux physiciens, ils sont extrêmement intéressants, ils sont aussi un peu controversés, mais ils viennent de sortir un bouquin qui s'appelle « La fin du hasard », dans lequel ils essayent d'expliquer que, c'est des arguments qui ne sont pas tout à fait nouveaux, mais que c'est impossible que le monde, avec ses paramètres, sa manière, son fonctionnement, enfin je ne veux pas entrer dans le détail des choses, mais puisse être né par hasard. Donc pour eux, il y a une espèce de Dieu, mais voilà, c'est pas le Dieu de la Bible hein, qu'il a. Mais pour eux, voilà, il y a quelque chose, ça ne peut pas être par hasard. Alors c'est intéressant parce que c'est juste à l'opposé, quelque part, de la vision de Jacques Monod. Pour vous dire que quelque part, ça fait débat hein, chez tout le monde, chez les scientifiques aussi, cette question du hasard. Alors, la démarche scientifique, hein, elle est née de la recherche d'explications naturelles, pour le dire de manière simpliste. Il y a des gens qui ont une vision animiste du monde, dans lequel, si par exemple vous avez un accident parce qu'il y avait une pierre sur la route, votre pneu a éclaté en tapant sur cette pierre, et puis vous êtes sorti de la route, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mort ou qui est blessé, et le réflexe dans la vision animiste, c'est de se dire, mais il y a dû y avoir quelqu'un qui voulait du mal à cette personne. C'est ça qui a causé l'accident. C'est pas de se dire, c'est le hasard d'une pierre. Et puis, il y a toutes sortes de cérémoniels pour essayer de se protéger des malheurs qui peuvent être causés par la malveillance de personnes ou par la malveillance de certains esprits. Et au Laos, on a dans beaucoup de villages, moins dans les villes, mais on a beaucoup de villages, des gens qui sont en plein dans cette manière de concevoir les choses et qui ont des cérémoniels très importants au niveau du village. Et c'est souvent ça qui cause des persécutions pour des chrétiens. C'est ensuite repris par les autorités politiques, mais le fond du problème, il est là. C'est une confrontation de vision du monde parce qu'ils pensent que si on respecte pas tous ces cérémoniels, on va amener des malheurs sur le village. Alors depuis la naissance de la science avec Galilée et Newton, on cherche à réduire tout ou à comprendre tout à partir de causes naturelles. On a compris qu'on a la même loi de gravité qui fonctionne partout puis qui explique aussi bien pourquoi une pomme tombe en une seconde d'un pommier des Serex, à 5 mètres de haut, que la Terre tourne en une année autour du Soleil, à 150 millions de kilomètres. Voilà, c'est la même chose qui explique l'un et l'autre. Alors, au bout du compte, on arrive à un monde où tout est une espèce de mécanique qui tourne toute seule. Alors, peut-être qu'on imagine qu'il y a un horloger qui l'a mis en route, puis après, elle tourne toute seule. Puis, quelle place il reste pour Dieu? Quelle place il reste pour la liberté humaine? Peut-être pas grand-chose. Puis, au XXe siècle, il s'est quand même passé quelque chose, c'est que le hasard est re-entré par la petite porte de différents côtés, mais entre autres dans ce qu'on appelle la mécanique quantique. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais ça veut dire qu'au niveau des particules élémentaires, de ce qui est tout petit, ce qu'on étudie au CERN, les événements individuels, ils sont complètement au hasard. C'est-à-dire, si vous avez quand vous avez du radium ou un autre élément qui produit de la radioactivité pour vous soigner dans la radiothérapie, vous avez des atomes qui explosent puis qui vous envoient des rayons. Si vous regardez un atome, vous ne pouvez pas savoir quand il va exploser. Il peut exploser dans 5 minutes ou dans 5 ans, c'est imprévisible. C'est juste que sur le nombre, vous savez qu'il y en a juste à peu près la bonne quantité qu'il vous faut. OK, mais c'est au hasard. Mais cette histoire qui est du hasard là-dedans, c'était pas simple à admettre. Je sais pas si vous avez entendu la phrase d'Einstein qui disait « Mais Dieu ne joue pas au dé ». OK, alors le Dieu d'Einstein, encore une fois, c'est pas le Dieu de la Bible. Mais c'est intéressant parce que pour lui, il se disait « Mais le hasard, c'est pas possible, quelque part. Le monde, il doit suivre des lois déterministes, c'est juste qu'on ne les connaît pas bien. Okay? Mais en fait, vers les années 80, je ne sais plus la date, là, on a pu faire des expériences pour montrer qu'il y avait du vrai hasard, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'imprévisible dans le monde. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant qu'il y ait du vrai hasard. Alors, il y en a au niveau des particules, mais il y en a à un niveau plus simple. Je vais essayer quand même de vous montrer une petite illustration. Vous savez, quand on joue au billard, si vous avez que votre boule sur le billard, vous arrivez assez bien à prévoir la trajectoire qu'elle va prendre. Mais si vous devez taper plus exclusivement plusieurs boules, ça devient très difficile. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Si j'y arrive... Je vous ai mis l'image de trajectoire de billard. Vous avez un point de départ, puis vous avez la trajectoire, okay, d'une petite boule qui va aller taper successivement 4 boules. Puis je vais modifier très peu la trajectoire initiale, hein, l'angle avec lequel ça part. Vous ne voyez rien bouger du tout sur la trajectoire initiale. Parce que j'ai fait un tout petit changement, mais chaque fois que ça tape une boule, la petite déviation est augmentée. Et puis dans cette situation, quand j'arrive à la quatrième boule, sans même rien voir de différence sur le premier bout de trajectoire, ça atteint ou ça n'atteint pas, ou ça passe à gauche ou à droite, la quatrième boule. Et c'est plein de phénomènes physiques qui sont comme ça, c'est inéluctable, il y a de l'imprévisible. Alors, vous avez ça dans la météo. Vous pouvez prévoir assez bien le temps qu'il fait, à quelques jours, mais vous pouvez pas le prévoir plus loin qu'une certaine période. C'est pas seulement parce qu'on sait pas bien le calculer et qu'on n'a pas assez de paramètres, c'est parce que ça devient véritablement imprévisible au bout d'un certain temps fini. Puis si vous avez des orages, vous arrivez à savoir qu'il y a des orages dans la région de Genève, mais c'est impossible de prévoir si ça va tomber à Bellevue ou à Versoix. Okay. Donc, il y a vraiment de l'imprévisible. Ok. Alors, je crois qu'il faut admettre quelque part, enfin c'est en tout cas ce que je crois, c'est que cette part d'imprévisible, ça fait partie aussi des lois créées par Dieu. Dieu, il n'a pas seulement créé une mécanique, il a créé quelque chose, c'est assez extraordinaire, parce que ça donne une espèce de souplesse hein, au mécanisme, si vous voulez, qui fait que on n'est plus nous, que la vie ait pu advenir avec des êtres qui peuvent agir librement. Et je pense qu'on peut s'en émerveiller. Et s'émerveiller même des mécanismes de hasard qui sont utilisés, hein, selon la théorie de l'évolution, pour produire la vie est arrivée jusqu'à l'être humain, mais ça fait partie de la création de Dieu. Et pour ceux qui sont médecins, vous savez bien que les mécanismes qui font qu'on puisse se défendre contre à peu près n'importe quel type de germe, même inconnu, ils sont basés sur des mécanismes de hasard qui font qu'on cherche toutes les possibilités pour se défendre et puis qu'on trouve les bons et que cela se développe. Voilà, on ne va pas lancer dans plus d'explications, mais je crois qu'il y a de quoi s'émerveiller en tant que croyant. Alors, si on revient à nos questions plus terre à terre, qu'est-ce que ça implique dans notre vie par rapport à notre foi dans un Dieu tout puissant qui connaît tout? Est-ce que tout est programmé d'avance? Pas si vous avez l'impression que tout est programmé d'avance dans votre vie. Ah. Alors, vous connaissez le psaume 139, sans doute. Ça vous dit quelque chose? Le Seigneur, tu m'as scruté et tu connais. Tu connais mon coucher et mon lever, de loin tu discernes mes projets, tu surveilles ma route et tous mes chemins te sont familiers. D'ailleurs, de loin tu discernes mes projets, dans d'autres Bibles c'est traduit d'avance, tu connais tous mes projets. Okay. Un mot n'est pas encore sur ma langue et déjà Seigneur tu le connais. Derrière et devant tu me sers de près, tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. C'est un très beau texte où poétiquement le psalmiste exprime sa foi et sa confiance dans un Dieu qui sait tout d'avance. Mais qu'est-ce qu'il en tire avec cette connaissance, mystérieuse connaissance qui me dépasse? Il en tire que quelque part, Dieu me dépasse. Puis quand il dit au verset 5, tu es devant et derrière, ça veut sans doute dire, tu tiens entre tes mains le présent et l'avenir. Pour les Juifs, ce qui est devant, c'est le passé, paraît-il, parce que le passé, ça, on le connaît, on le voit. Okay. Et puis, nous, on raisonne à l'envers hein, de ça. Voilà. Puis, ce qui est derrière, parce que je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, c'est l'avenir. C'est curieux, mais voilà, il raisonne comme ça. Mais Dieu a dans sa vision le passé, le présent et l'avenir tout ensemble. Et puis, à la fin du psaume, à quoi est-ce qu'il arrive? Conduis-moi. Vois si je prends le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin de toujours. Alors, c'est un peu la prière d'un homme libre, hein, puisque s'il n'était pas libre, s'il était programmé, il saurait où il va. Mais non, il pourrait se tromper de chemin. Et il demande à Dieu de le conduire. Et puis, il a cette confiance dans un Dieu immensément bon, qui connaît toutes choses. Donc, c'est plus une question de confiance et d'adoration face à un Dieu qu'il dépasse qu'une idée mécanique hein, de Dieu qui aurait tout programmé d'avance. Puis d'ailleurs, quand on dit que Dieu connaît les choses à l'avance, si vous réfléchissez un peu, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que nous, on est inscrit dans le temps. Okay ? Puis on est aujourd'hui dimanche amérin, mais il y a le passé, puis il y a l'avenir. Dieu n'est pas limité par notre temps. Le temps et l'espace, c'est des choses qui sont créées par Dieu dans lesquelles nous on vit. Mais Dieu, il est au-delà de ça. Autrement dit, on ne va pas aller chercher Dieu dans le ciel où il y a les satellites qui règlent nos GPS. Okay ? On ne va pas le chercher dans les étoiles qu'on voit avec un télescope. Il ne faut pas non plus le chercher dans le temps qui fait aussi partie de l'espace quelque part, comme on le sait depuis qu'Einstein a fait la théorie de la relativité. Tout ça, ça fait partie du monde créé. Dieu est au-delà de tout ça et il a la perception complète du passé, du présent et de l'avenir et du sens de toute chose. Mais bien sûr, le psalmiste utilise un langage humain parce que nous, on ne peut pas raisonner autrement. Mais il exprime poétiquement aussi que Dieu le dépasse. Puis il y a d'autres textes qui montrent que Dieu n'est pas inscrit dans le temps comme nous. Un jour est comme 1000 ans, par exemple. On pourrait en citer d'autres. Mais quand Dieu nous rejoint dans son humanité en Jésus-Christ, il n'est pas omniscient. Jésus dit explicitement, nul ne connaît le jour ni l'heure, ni le Fils, seulement le Père. Quand Dieu vit en Jésus-Christ comme un homme, il est aussi comme nous dans le temps. Et Jésus, il connaissait la fin de sa mission terrestre, mais certainement pas tous les détails du parcours. Pour cela, il faisait confiance à Dieu, il priait son Père, passait du temps dans la prière pour découvrir quel chemin prendre, même s'il savait où ça allait le mener et que ses disciples ne comprenaient pas. Donc, cette omniscience de Dieu, c'est pas comme celle de, je sais pas, comme celle de l'horoscope, hein, où les gens pensent que tout est inscrit dans les étoiles. T'es inscrit d'avance dans les étoiles. C'est pas de cet ordre-là. Ça ressemble pas non plus à, on n'est pas du tout appelé à faire comme les gens qui vont chercher le sens et l'avenir chez les voyants. Non, c'est celle d'un Dieu qui, même s'il connaît tout, il est là, il vient dans notre vie à créer des choses nouvelles avec sa parole. Et puis, il nous permet, nous aussi, de créer du neuf par nos interactions avec lui et avec les autres. Alors, à quoi sommes-nous appelés ? Je crois que d'abord, on est appelé à la confiance, comme le psalmiste disait. Mais ce n'est pas si simple. Quand tout va bien, hein, on a tendance à juste vivre dans notre ronron, à oublier Dieu, à oublier peut-être d'être reconnaissant. Parce que quand tout va bien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas de soi, si on y pense, et pour lesquelles on pourrait être reconnaissant pour toutes sortes de petites choses de la vie, hein, dès qu'on se lève le matin. Et puis quand survient la difficulté, les maladies, des accidents, des ruptures relationnelles, ce n'est pas non plus évident parce qu'on se dit mais alors pourquoi ? Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Ou est-ce que Dieu serait en train de me punir ? Mais là aussi, on est appelé à faire confiance avec cette certitude que Dieu est présent même au cœur de ce qui va mal. Donc confiance, reconnaissance aussi. Mais je dirais la reconnaissance, c'est pas seulement de dire merci, c'est aussi être prêt à reconnaître justement les traces de Dieu dans nos vies. C'est pour ça que j'ai fait allusion à cette petite histoire, et je crois qu'on peut tous en découvrir. Et puis troisièmement, ben simplement, à faire sa volonté, à nous engager. Mais c'est quoi la volonté de Dieu ? Là encore, hein, on peut voir sa volonté comme quelque chose de préprogrammé dans lequel on n'a qu'à entrer. Moi, je ne crois pas que Dieu a un plan préprogrammé pour tous les détails de nos vies, mais qui nous appelle plutôt la liberté à la responsabilité. Puis le David Brown, qui s'occupe des GBU en France, qui concluait la rencontre de Paris dont je vous parlais, il nous disait, mais il ne faut pas comparer la recherche de la volonté de Dieu à une espèce de chasse au trésor. Alors, j'aimerais reprendre un peu, je vais reprendre une image qui est inspirée d'une image qu'il nous a donnée. Nous connaissons je vais l'amener tout de suite. Voilà. Une espèce d'image de ce que c'est la volonté de Dieu. Il y a quelque part une volonté de Dieu, hein, qui est un peu secrète, hein, qui est un plan de Dieu pour le monde dont on sait que ça existe, mais voilà, on ne sait ni le jour ni l'heure, hein, de la fin des temps, de la fin de toute chose. On ne sait pas comment Dieu s'y prend, mais on sait que Dieu a un plan pour le monde. Puis à l'intérieur de ça, il y a la volonté éthique, hein, ou morale. On sait quel est le bien. La paix, la justice, l'amour, la vérité. Tout ce que Jésus nous a enseigné dans le sermon sur la montagne. Ça, on le connaît. Et il y a plein de textes qui nous le disent. Et vous connaissez ce verset, tout le monde connaît le verset « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Est-ce que vous avez une idée de quel est le verset suivant ? Il dit quoi ?
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés semblables à l'image.
Voilà, il les a prédestinés à quelque chose. Alors, effectivement, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ceux d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Alors, il y a un but dans cette volonté de Dieu, un but d'être conforme à l'image de son Fils. Donc, on a ce que Dieu nous fait connaître, on a son plan mystérieux, et puis là, au milieu, il y a un espace de liberté, hein, où Dieu ne va pas forcément nous dire quelle personne on doit épouser, quel métier on doit faire, où il faut aller en vacances. Okay. Mais dans cet espace de liberté, on est appelé à lui faire confiance, parce qu'il connaît toute chose, puis même à prendre des risques, comme dit l'Ecclésiaste, voilà, on prend des risques parce qu'on ne sait pas, mais on peut prendre ces risques en toute confiance et à nous engager avec ce que la Bible nous dit. Elle nous en dit assez pour savoir dans quel sens, dans quelle direction nous engager. Avec cet objectif que Dieu place devant nous, de devenir semblable à l'image de Jésus, dans la grande famille des enfants de Dieu.
chair.